Nous allons prier si vous le voulez bien. Oui Seigneur, donne-nous ton Saint-Esprit ce matin pour ouvrir nos cœurs à ta présence, à ta bonté, à ta splendeur et à ta miséricorde que tu nous as envoyée, nous qui étions loin de toi, qui étions ennemis. Nous voici maintenant réconciliés grâce aux souffrances, à la mort et à la résurrection de notre Sauveur Jésus-Christ. Aide-nous ce matin à avancer un peu plus avec toi, à progresser dans la foi, à nous donner totalement à toi dans la foi, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Je vais d'abord lire le texte de la prédication qui est dans Matthieu au chapitre 27. Et donc le titre est Jésus devant Pilate. Matthieu donc 27 à partir du... D'abord le verset 1 et 2. Dès que le matin fut venu, tous les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus pour le faire mourir. Après l'avoir lié, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Ponce Pilate, le gouverneur. Verset 11. Jésus comparut devant le gouverneur l'interrogea en ces termes. « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui répondit, « Tu le dis. » Mais il ne répondit rien aux accusations des principaux sacrificateurs et des anciens. Alors Pilate lui dit, « N'entends-tu pas de combien de choses ils t'accusent ?» Et Jésus ne lui donna de réponse sur aucune parole, ce qui étonna beaucoup le gouverneur. À chaque fête, le gouverneur avait la coutume de relâcher un prisonnier, celui que demandait la foule. Ils avaient alors un prisonnier fameux nommé Barabbas. Comme ils étaient assemblés, Pilate leur dit, « Lequel voulez-vous que je vous relâche, Barabbas ou Jésus qu'on appelle Christ ?» Car ils savaient que c'était par envie qu'ils avaient livré Jésus. Pendant qu'ils étaient assis sur le tribunal, sa femme lui fit dire, « Qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. » Les principaux sacrificateurs et les anciens persuadèrent à la foule de demander Barabbas et de faire périr Jésus. Verset 21. Le gouverneur, prenant la parole, leur dit, « Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche ?» Ils répondirent, « Barabbas. » Pilate leur dit, « Que ferais-je donc de Jésus qu'on appelle Christ ?» Tous répondirent qu'il soit crucifié. Le gouverneur dit, « Mais quel mal a-t-il fait ?» Et ils crièrent encore plus fort qu'il soit crucifié. Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit, « Je suis innocent du sang de ce juste, cela vous regarde. » Et tout le peuple répondit que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Alors Pilate leur relâcha Barabbas, et après avoir fait battre de verges Jésus, il le livra pour être crucifié. Donc nous allons continuer ce matin notre série sur la passion de notre Sauveur Jésus-Christ. Dans le texte de Matthieu, mais ce matin plus particulièrement, nous tiendrons compte des trois autres évangiles, afin de mieux éclairer notre compréhension des événements qui concernent donc ce coup-ci non plus le procès religieux de Jésus, mais le procès civil, si on peut dire ça comme ça. Je vous signale en passant qu'il existe un excellent petit que sais-je qui s'appelle le procès de Jésus, qui n'a pas été écrit par un chrétien, mais qui est très édifiant, et c'est tout comme s'il avait été écrit par un chrétien, parce que il est vraiment un soutien très fort à tout ce que dit l'Évangile. C'est écrit par un historien du droit de l'époque de Christ, dont j'ai oublié le nom, Pierre, J'ai oublié le nom. Mais si ça vous intéresse, je pourrais vous le dire. Donc, nous continuons ce matin cette série. La dernière fois, nous avions vu quelle a été la destinée tragique de Judas. Alors, qu'est-ce que ce récit aujourd'hui va nous apporter sur la compréhension profonde de Jésus-Christ? C'est une des questions auxquelles nous aurons à répondre. Et aussi, qu'est-ce qu'il nous apprend sur les différentes attitudes que nous pouvons avoir vis-à-vis de Jésus-Christ et comment faire le bon choix parmi ces différentes attitudes? Car comme vous le savez, le monde entier est rempli d'options et d'attitudes différentes vis-à-vis de Christ. Chacun doit savoir que dès le moment où il est exposé à l'Évangile, c'est-à-dire à la bonne nouvelle de Christ, il est forcément placé devant un choix pour ou contre Jésus-Christ. Et il n'a personne à qui l'Évangile est présenté n'a l'option de refuser ce choix comme a essayé de le faire Pilate. Pour ou contre Jésus-Christ. Et Pilate nous est donné en exemple justement dans ce texte parce qu'il a tout fait pour éviter de prendre ses responsabilités donc devant ce choix. Mais comme on va le voir ce matin, il a été obligé de faire un choix. Et curieusement, c'est Pilate lui-même qui pose la question de ce choix fondamental au verset 22, où il nous dit, Pilate, « Que ferais-je donc de Jésus qu'on appelle Christ ?» C'est une question qui rebondit vers chacun d'entre nous. Donc à chacun de répondre à cette question, et c'est la question la plus vitale, non seulement en ce qui concerne notre vie présente, mais aussi notre vie à venir, la vie éternelle, où est-ce que nous allons passer l'éternité. Notre méditation comprendra 4 points. Premier point, l'hostilité aveugle envers Jésus-Christ. Deuxième point, la question de la royauté de Jésus-Christ. Troisième point, le silence de Jésus. Et quatrième point, nul ne peut, comme Pilate, se laver les mains à propos du sang de Jésus. Premier point, l'hostilité aveugle envers Jésus-Christ. Versets 1 et 2. Dès que le matin fut venu, tous les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus pour le faire mourir. Après l'avoir lié, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Ponce Pilate, le gouverneur. Donc, on avait vu que le procès religieux devant le Sanhédrin et Caïphe s'était tenu en plein milieu de la nuit, ce qui était tout à fait illégal. Et c'est pourquoi ici, on les voit se réunir de nouveau de bon matin, après le lever du jour, c'est afin de donner une apparence légale donc à leur décision qui avait été prise pendant la nuit. Pourquoi est-ce que les conducteurs religieux juifs sont si pressés? Ils sont très pressés. Et une des raisons, il y a plusieurs raisons, mais l'une des raisons, c'est qu'ils savaient que Jésus était très populaire. Et la preuve, la manière glorieuse dont il avait été accueilli par tous ceux qui l'aimaient et le suivaient, accueilli donc à son entrée à Jérusalem. Donc les chefs religieux préféraient, c'était mieux pour eux que les choses ne traînent pas en longueur, parce que sinon ils risquaient de rencontrer de l'opposition, donc de la part de tous ceux qui vraiment suivez Christ et commencez déjà à l'aimer. Et pourtant, on sera un peu déçu quand on lit au verset 20, les principaux sacrificateurs et les anciens persuadèrent la foule, parce que dans cette foule, elle n'est pas homogène. Il y avait les gens qui étaient favorables à Jésus et des gens qui étaient défavorables à Jésus. Mais le verset 20 nous dit, les principaux sacrificateurs et les anciens persuadèrent la foule de demander Barabbas et de faire périr Jésus. On voit combien les gens, même quand ils sont bien disposés, deviennent versatiles et changeants quand ils sont pris dans d'une foule fanatisée. Donc, dès le lever du jour, les chefs religieux amènent Jésus devant Pilate. Alors, pourquoi est-ce qu'ils l'amènent devant Pilate? Premièrement, pour accomplir tout ce que la main et le conseil de Dieu avaient arrêté d'avance, comme on lit dans Actes, c'est évident. Et Jésus lui-même, quelques jours avant, avait prophétisé ceci, dans Marc 10, 33-34, « Voici, nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à mort, et ils le livreront aux païens. » C'est une réalisation, donc, de cette prophétie, ici. Ceci nous rappelle que Dieu transcende toujours l'histoire des hommes et qu'il la tient sous sa domination. Deuxièmement, pourquoi est-ce que les Juifs ont livré Jésus à Pilate? C'est que les autorités juives, depuis peu de temps d'ailleurs, avaient perdu le droit de mettre à mort eux-mêmes les accusés. Et depuis peu de temps, pour montrer que Dieu agit dans l'histoire, c'était pour permettre que Christ soit livré aux mains des païens, comme ça a été prophétisé. Je crois que c'est seulement quelques années avant qu'ils avaient perdu. Parce que sinon, qu'est-ce qui se serait passé? Ils auraient fait comme avec Étienne. Ils auraient jeté Christ à terre, Jésus à terre, ils l'auraient lapidé, puisqu'ils l'accusaient pendant la nuit de blasphème. C'était la lapidation qui était la punition prévue dans ce cas. Mais ça ne correspondait pas aux prophéties où il est dit qu'il fallait que Christ soit élevé. Et il est écrit, maudit soit celui qui est pendu au bois à propos de Christ. Il fallait donc qu'il passe par le moyen romain de tuer les gens, de les condamner à mort, la crucifixion. Donc, voilà pourquoi les Juifs livrent Jésus à Pilate. Mais les Juifs se retrouvent, en livrant Jésus à Pilate, devant un gros problème, c'est qu'ils n'ont strictement aucun chef d'accusation valide aux yeux de l'autorité romaine pour faire condamner Jésus. Dans Jean 18, verset 29, nous lisons « Pilate sortit donc pour aller vers eux et il dit « Quelle accusation portez-vous contre cet homme ?» Ils n'ont strictement rien à répondre à cette question et ils n'ont aucune accusation qui tienne la route vis-à-vis de l'autorité romaine. Vous savez que les Romains étaient des spécialistes du droit, donc ça ne pouvait pas tenir l'histoire de blasphème. C'est pour cette raison que, pour l'instant, ils n'en parlent pas. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne peuvent pas répondre à la question, donc ils ne répondent pas. Et qu'est-ce qu'ils disent? Jean 18, 30, « Si ce n'était pas un malfaiteur, nous ne te l'aurions pas livré. » Mais ce genre d'argument peut-il tenir devant un juge? Absolument pas. Devant une cour de justice, cet argument n'a strictement aucune valeur. Donc, ils ne répondent pas à la question, ils répondent à côté de la question. Et la réponse, bien sûr, offense Pilate, leur répond cyniquement au verset 31 de Jean. prenez-le vous-même et jugez-le selon votre loi, alors qu'il savait très bien qu'il n'avait pas le droit. Donc ils n'ont pas pu faire valoir l'accusation de blasphème parce que ce n'était pas le travail ni le rôle des jurés et des juges romains que de traiter ces questions de conviction religieuse, surtout si elles étaient propres au peuple juif. Donc les religieux juifs se retrouvent maintenant au pied du mur. Ils n'ont aucune accusation crédible à porter contre Jésus. Et pour le faire condamner à mort, ils n'ont même pas le moindre reproche à lui faire ou la moindre critique. Et pourtant, pendant 3 ans, les 3 ans du ministère de Jésus, ils ont tout essayé pour trouver la moindre faille. Mais ils n'ont jamais pu. Ils n'ont pas cessé de lui tendre des pièges, de l'observer, de le contredire, de le harceler, de prendre des renseignements sur lui, etc. Mais ils n'ont rien trouvé, absolument rien, pas le plus petit défaut à lui reprocher. Et comment est-ce qu'ils auraient pu trouver quelque chose à lui reprocher, à reprocher à Jésus dont il est dit qu'il allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Donc les Juifs le savaient très bien, ça. Et ils ont constaté par eux-mêmes que la vie de Jésus était extraordinaire. Mais on peut se poser la question, pourquoi est-ce que eux-mêmes ne se sont pas posé la question devant le spectacle extraordinaire de ses miracles, de ses guérisons, de sa bonté, de sa vie? Pourquoi est-ce qu'ils ne se sont pas posé la question de se dire, mais est-ce que cet homme extraordinaire n'est pas réellement ce qu'il dit être, le Messie, le Sauveur annoncé par les prophètes? Mais leur aveuglement était, et leur jalousie et leur haine contre Jésus étaient telles qu'ils ne se sont même pas posé la question. Ou alors, s'ils se la sont posée, ils ont donné la mauvaise réponse. Toi qui es un homme, tu te fais Dieu. Et ils l'accusent donc de blasphème, lui le fils du Dieu vivant, lui dont il est écrit dans le prophète Ésaïe, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Les Juifs lisaient ça depuis des dizaines d'années, des centaines d'années dans leur synagogue. Donc l'aveuglement des conducteurs religieux est tout à fait étonnant. Mais comme ils n'ont aucune accusation plausible contre Jésus, qu'est-ce qu'ils font? Ils en inventent de toutes pièces. Et ils essaient de faire en sorte que ces accusations puissent être valides aux yeux de l'autorité judiciaire romaine. Nous trouvons donc ça dans l'évangile de Luc, Luc 23:2, ils se mirent à l'accuser, disant, nous avons trouvé cet homme excitant notre nation à la révolte, empêchant de payer le tribut à César, et, ça c'est vrai, et se disant lui-même Christ roi. Le but de ces accusations, c'était de faire croire à Pilate que Jésus représentait un danger sur le plan politique. Un danger pour l'Empire romain. Mais quelle folie! Et d'ailleurs, Pilate n'y a pas cru un seul instant, puisqu'il nous est dit qu'il savait que c'était par envie qu'ils avaient livré Jésus. Jamais Jésus n'a excité les Juifs à la révolte, jamais il n'a empêché de payer le tribut à César, puisqu'il a dit « rendez à César ce qui est à César ». Et Incidemment, il a dit de manière cynique un peu vis-à-vis des Romains et à César, et rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu, que le vrai Dieu à qui on doit rendre hommage, c'est Dieu et non pas César, qui se faisait adorer comme un Dieu. Conclusion. L'attitude des religieux juifs vis-à-vis de Jésus, c'est une opposition délibérée et systématique. C'est un rejet total de Jésus-Christ, leur propre Messie. Et ils vont même jusqu'à un point incroyable dans leur folie de rejeter le Sauveur. Verset 25, ils disent « Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants ». Et ils disent aussi « Nous n'avons de roi que César ». Incroyable. Comment des hommes peuvent-ils atteindre un tel degré dans la démence? Mais nous savons que la folie du péché peut aller très loin pour ceux qui rejettent Jésus-Christ. Et les gens qui ont vécu dans le péché, comme ça a été mon cas, très loin, avant de se convertir, savent cela. C'est que la démence, la folie du péché, peut nous entraîner très très loin, beaucoup plus loin que nous ne l'aurions voulu. C'est pourquoi notre sagesse, c'est un peu l'application, ce sera d'accueillir le Sauveur en toute confiance si nous cherchons le salut ou si nous cherchons à progresser dans la sanctification. Et comme dit Paul dans 1 Corinthiens 2:8, c'est une sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'il l'avait connue, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Deuxième point, la question de la royauté de Jésus. La seule accusation donc portée contre Jésus, qui ne soit pas une fausse accusation de la part des chefs religieux, c'est se disant lui-même Christ roi. C'est pourquoi, lorsque Pilate demande à Jésus « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui répondit « Tu le dis. » Mais vous remarquerez que la question est posée de telle manière que Jésus ne peut répondre ni par oui ni par non à cette question. S'il dit oui à Pilate, quand Pilate lui dit « Es-tu le roi des Juifs ?» Pilate n'aura aucune idée de ce qu'il faut entendre par « roi » dans ce cas-là. En tant que procurateur romain, tout de suite, l'idée qui lui viendra, c'est « roi » au sens temporel et politique, donc éventuel concurrent de César. Donc, voilà ce qui se passerait dans l'esprit de Pilate s'il disait oui. Et s'il dit non, il mentira, puisque Jésus-Christ est roi des rois et seigneur des seigneurs. Il nous faut donc nous tourner vers l'évangile de Jean pour comprendre un peu mieux ce passage et pour comprendre surtout, parce que Jésus l'explicite dans l'évangile de Jean, que le royaume, son royaume est de nature spirituelle. Et il l'avait déjà dit explicitement aux pharisiens, ça, quand il l'avait dit dans Matthieu 12, 28, « Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. » Et les pharisiens ont bien compris qu'il s'agissait d'un royaume de nature spirituelle et non pas politique. C'était donc un pur mensonge que de présenter à Pilate Jésus comme un agitateur politique qui aurait cherché à renverser l'Empire romain ou à prendre la place de César Tibère. Et ici, on peut se poser la question, si ça avait été le cas, quelle attitude pensez-vous que les religieux juifs auraient eu vis-à-vis de Jésus s'il s'était présenté comme agitateur politique, révolutionnaire, désirant chasser les Romains? Quelle attitude pensez-vous que les Juifs auraient eu? Ils auraient accueilli à bras ouverts parce que c'était le genre de Messie qu'ils attendaient pour chasser les Romains de la Palestine. Non seulement les Juifs ne l'auraient pas livré aux Romains, mais ils l'auraient vraiment pris comme leur propre Messie, vraiment parce que c'est ça qu'ils attendaient comme Messie et pas autre chose. Et c'est pour ça que, comme Judas peut-être, qu'on disait militant politique, enfin certains le disent, a été déçu de voir que le règne de Christ n'était que spirituel. C'est une autre affaire. Mais les Juifs sont déçus à cause de ça. L'application que nous pouvons nous tirer de ça, en tant que nous soyons croyants ou non-croyants, c'est que nous ne devons jamais nous forger une image a priori du Sauveur et du Christ qui soit selon notre propre fantaisie, mais nous devons toujours vraiment rester fidèles à la personne de Jésus telle que l'ensemble de la Bible, parce que toute la Bible est centrée sur Jésus, sur le Sauveur, nous le présente. Et donc nous ne devons pas, comme font beaucoup de gens aujourd'hui, nous créer ou nous recréer un Jésus à notre image et selon nos pensées. Il existe plus de 300 prophéties concernant le Christ dans l'Ancien Testament. Et donc les Juifs avaient une description parfaitement exacte du genre de Messie qu'ils devaient attendre. Mais ils n'ont pas reçu ce Messie. Et leur attitude apparemment n'a toujours pas changé, ce qui explique que depuis 2000 ans, Ésaïe 53 n'est plus lu dans les synagogues. Troisième point, le silence de Jésus. Verset 12. Mais il ne répondit rien aux accusations des principaux sacrificateurs et des anciens. Alors Pilate lui dit, « N'entends-tu pas de combien de choses il t'accuse ?» Et Jésus ne lui donna de réponse sur aucune parole, ce qui étonna beaucoup le gouverneur. Dans 1 Timothée 6,13, Paul nous parle de Jésus-Christ qui fit une belle confession devant Pilate. Et le silence de Jésus fait aussi partie de ce témoignage extraordinaire qu'il a eu au moment de ce procès et par son silence. Pourquoi est-ce qu'il n'a rien répondu aux accusations des Juifs? D'abord parce que contre de fausses accusations, il n'y a rien à répondre. Et je voudrais citer à nouveau Origène qui dit, à propos du silence de Jésus devant Pilate et devant ses juges, « Le témoignage de sa vie entière et de ses œuvres devant les Juifs valait bien mieux que des mots pour se défendre des fausses accusations. » Voilà ce que dit Origène. Jésus ne dit donc strictement rien pour sa défense. Mais ce silence a un autre sens. Il est aussi ici un signe très fort de la majesté et de la dignité royale de Jésus. Surtout quand on le compare aux vociférations de la foule fanatisée. Et l'impression qu'on retire de cette scène, finalement, c'est que ce n'est pas Jésus qui est sur le banc des accusés, mais toute cette folie des hommes qui sont devant lui. Et pourtant, on pourrait trouver surprenant que Jésus ne dise rien devant le mensonge et la fausseté, lui qui s'est opposé toute sa vie au mensonge et à la fausseté. Pendant toute la durée de son ministère. Ce qu'il nous faut bien comprendre à propos de ce silence, c'est que le ministère de la parole de Jésus est maintenant terminé et son ministère d'enseignement est terminé. Il est entré dans son ministère sacrificiel dans son ministère de rédemption. Et il est en plein dans la prophétie d'Ésaïe 53 qui dit qu'il est comme une brebis muette devant ceux qui la tondent, il n'a point ouvert la bouche. Un autre point à souligner, c'est que l'un des buts principaux de l'incarnation, c'est que Jésus-Christ a été livré au jugement des hommes, non pour se justifier lui-même, mais pour nous justifier, nous, pécheurs, devant la justice divine. Christ n'est pas venu sur notre terre afin de répondre pour lui-même, il est venu afin de répondre pour nous, pécheurs. Et il continue, puisqu'il est dit qu'il est maintenant notre avocat auprès du Père et qu'il intercède pour nous, dit l'Épître aux Hébreux. On en vient maintenant, excusez-moi, c'est un peu long, mais il le faut, parce que sinon on sauterait des choses importantes. On en vient maintenant donc au quatrième point, c'est-à-dire l'attitude de Pilate. Quatrième point, donc nul ne peut, comme Pilate, se laver les mains à propos du sang de Jésus. Verset 15. À chaque fête, le gouverneur avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que demandait la foule. Ils avaient alors un prisonnier fameux nommé Barabbas. Comme ils étaient assemblés, Pilate leur dit : Lequel voulez-vous que je vous relâche ? Barabbas ou Jésus, qu'on appelle Christ ? Vous notez qu'il précise qu'on appelle Christ pour piquer au vif les religieux juifs. Christ, quand il parle, ça veut dire qu'il est le Messie, quand il dit ça. Alors, il est évident qu'au cours de ce procès, Pilate est pris entre deux feux. D'un côté, il est convaincu que Jésus est innocent, c'est sa conviction profonde, et il voudrait le relâcher. Mais d'un autre côté, les chefs religieux et la foule mettent la pression sur lui pour qu'il condamne Jésus à mort. Et Pilate essaie par plusieurs moyens de sortir de ce dilemme. Verset 7, dans l'évangile de Luc 23, verset 7. Ayant appris qu'il était de la juridiction d'Hérode, il le renvoya à Hérode, qui se trouvait aussi à Jérusalem ces jours-là. C'est un des moyens qu'il a trouvé pour fuir sa responsabilité. La responsabilité de se prononcer pour ou contre Jésus. Mais cela ne l'avance pas à grand-chose, puisque Hérode le lui renvoie presque tout de suite en le déclarant lui aussi innocent. Et Pilate donc se retrouve à nouveau devant son problème. En fait, Pilate a tenté de se débarrasser du problème et de la responsabilité de Jésus à 5 reprises différentes. 1 Jean 18, 31, Pilate leur dit « Prenez-le vous-même et jugez-le selon votre loi. » 2. Luc 23, 7, il l'envoie chez Hérode. Troisième manière pour se débarrasser du problème, Jésus. Luc 23, 16, Pilate propose de châtier Jésus puis de le relâcher. Quatrième tentative, il essaie de nouveau au verset 22, « Je le relâcherai donc après l'avoir châtié. » 2 fois ça. Et cinquièmement, enfin, il trouve l'astuce d'échanger Jésus contre Barabbas. Et on pourrait ajouter une sixième manière de se débarrasser du problème, c'est de le déclarer innocent, tout simplement. Parce que lorsque un juge déclare quelqu'un d'innocent, il le relâche, forcément. Or, dans le seul évangile de Luc, Pilate déclare Jésus innocent à 4 reprises différentes. Luc 23, 4, Luc 23, 14, Luc 23, 15, Luc 23, 22. Dans les 4 évangiles, Jésus est déclaré sept fois, à sept reprises, innocent. Jean 18, 38, Jean 19, 4, Jean 19, 6. Et sur ces sept fois de cet ensemble, Pilate utilise six fois un terme technique du droit. C'est le verbe « trouver ». Un terme qui est toujours utilisé aujourd'hui pour dire, après une enquête et un interrogatoire, pour dire « un tel a été trouvé coupable, un tel a été trouvé innocent ». Et donc, c'est en quelque sorte une attestation officielle de l'Empire romain déclarant Jésus innocent, si on peut dire, puisque Pilate était le représentant officiel. Et donc, on voit encore une fois que Dieu travaille aussi à travers les événements de l'histoire et même de l'histoire profane, puisque c'est une déclaration officielle par des gens qui n'ont rien à voir avec leur religion juive ou chrétienne, de l'innocence de Jésus. Maintenant, la question qui se pose à nous, c'est celle-ci. Puisque Pilate a déclaré publiquement et officiellement Jésus innocent, pourquoi ne l'a-t-il pas relâché? Il y a une raison à cela. C'est que les Juifs avaient un très bon moyen de mettre la pression sur Pilate. Et on peut dire que même prononcer le mot de chantage de la part des autorités juives. Par exemple, il est dit dans Jean 19, 12, « Si tu le relâches, tu n'es pas ami de César », avec toutes les implications vicieuses que cela signifie. Je suis obligé ici, pour que vous compreniez ça, de faire une parenthèse sur l'historicité de certains événements concernant Pilate. Pilate avait commis de lourdes fautes dans le passé. Une de ces fautes est décrite, et Jésus en parle dans l'Évangile. Dans Luc 13, 1, c'est quand Pilate a fait massacrer des Galiléens. Donc, mais ce n'est pas la seule faute. Hein. Il y a plusieurs erreurs graves commises par Pilate qui nous sont rapportées soit par Philon d'Alexandrie, soit par Joseph, l'historien juif, qui nous raconte aussi, par exemple, entre autres, que par deux fois, Pilate avait reçu de sérieux avertissements de la part de l'empereur Tibère pour avoir provoqué des émeutes. Qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait imposé, amené à Jérusalem des emblèmes, des drapeaux romains, avec toute l'armée portant des drapeaux romains, et plus tard des boucliers romains, avec au-dessous de l'aigle impérial le portrait de César Tibère, qui, on le sait, était une idole pour les Romains, qui étaient obligés de l'adorer. Et vous comprenez un peu l'impact que ça a eu sur les Juifs pratiquants de la loi, alors que la Bible interdit formellement de toute représentation d'image pour éviter justement l'idolâtrie. Voilà, donc, alors, Pilate avait donc imposé ça, ça avait provoqué des émeutes, et les Juifs s'étaient plaints à l'empereur, César Tibère. Et César Tibère avait donné raison aux Juifs et tort à Pilate, et ils avaient donné des avertissements très sérieux à Pilate, à plusieurs reprises, César Tibère. Un autre événement, très important aussi, c'est quand Pilate a volé l'argent du trésor du temple pour faire construire un aqueduc, parce que c'était une période de sécheresse et il n'y avait presque plus d'eau qui arrivait à Jérusalem. Donc il avait fait main basse, comme on dit, sur l'argent du temple pour construire un aqueduc. Et là, ça avait provoqué une émeute encore. Les Juifs s'étaient plaints à César Tibère, et César Tibère avait donné encore un avertissement et un blâme à Pilate. Voilà ce qu'on sait par l'histoire donc extérieure à l'Évangile, mais c'est des événements, ces historiens sont des historiens sérieux. Donc, le problème, c'est que la position de Pilate, ici, c'est qu'il ne peut plus se permettre de provoquer encore une émeute en relâchant Jésus. Sinon, c'est la fin de sa carrière. Et en fait, vous allez voir que d'avoir trahi sa conscience et de livrer Jésus à la crucifixion ne lui a pas porté bonheur. Parce que comme Judas, il a été travaillé par sa conscience et il a été pris de remords. Et selon l'historien Eusèbe de Césarée, il a été renvoyé, il a été saqué par l'empereur, il a été exilé. Et d'après Eusèbe, il se serait jeté dans le Rhône, à Vienne. Et à ce que j'ai lu quelque part, il existe un mémorial de Pilate à Vienne, près de Lyon. Mais c'est Eusèbe qui dit ça, ça n'est pas tout à fait sûr. Et en général, les commentateurs parlent non pas à l'indicatif, mais au conditionnel. Les choses se seraient passées comme ça. Et curieusement, en face de Vienne, il existe le mont Pilat. C'est curieux. Bon, ça c'est la petite histoire. Alors, vous comprenez maintenant pourquoi Pilate a cédé à la pression de la foule et qu'il a livré Jésus à la crucifixion. C'est parce que les Juifs le savaient, connaissaient ses failles et savaient qu'ils pouvaient le faire chanter. Et le menacer de se plaindre à César et de le faire éjecter. Et il risquait sa vie, parce qu'un il a été déclaré par Tibère incompétent, Pilate, et dans ces cas-là, il aurait pu perdre la vie aussi, parce que les empereurs n'hésitaient pas à condamner à mort les gens incompétents, les gouverneurs incompétents. Mais il a été seulement exilé. Nous arrivons à la conclusion. Donc toutes ces choses devraient nous donner à réfléchir personnellement, chacun de nous. La situation donc de Pilate devant Jésus est, si on peut dire, un type ou un modèle de la position que chacun de nous a devant Jésus-Christ. Cette position implique un choix, et c'est Pilate lui-même qui formule ce choix au verset 22. La question que chacun de nous devrait se poser, je cite Pilate qui dit au verset 22, « Que ferai-je donc de Jésus qu'on appelle Christ ?» Alors on n'a que l'embarras du choix des différentes attitudes qu'on peut avoir. Vous avez vraiment un éventail de choix. Judas a trahi Jésus, Pierre l'a renié, les religieux juifs se sont débarrassés de lui, Hérode s'est moqué de lui, les soldats romains l'ont frappé, torturé, ils lui ont craché dessus, la foule l'a rejeté et lui a préféré Barabbas, Pilate l'a envoyé à la croix. Et en faisant cela, il s'est mis en pleine contradiction avec lui-même et avec ce qu'il a cru à propos de Jésus-Christ, Pilate. Donc si quelqu'un n'est pas croyant et que l'évangile de Christ lui est présenté, lui est annoncé, il est forcément devant un choix et il n'a aucun moyen, comme Pilate, de fuir ce choix. Vous ne pouvez pas vous laver les mains et vous dire que vous êtes innocente du sang versé par Christ pour vos péchés. En aucun cas, personne ne peut faire cela. Christ a dit, celui qui n'est pas pour moi est contre moi. Vous ne pouvez pas dire non plus que vous êtes neutre, que vous ne voulez pas être impliqué dans le problème, comme c'est apparemment la position de la femme de Pilate, au verset 19. De même, pour ceux qui sont croyants, pour nous qui sommes croyants, il est impossible non plus aussi d'adopter l'attitude de Pilate et de vivre en contradiction avec ce que nous croyons de Jésus-Christ. C'est-à-dire en relâchant le Barabbas du péché qui demeure encore en nous et qui demeurera jusqu'à notre mort, malheureusement, mais Dieu l'a voulu ainsi. Donc, relâcher le Barabbas du péché qui est en nous sous la pression d'une autre foule. Quelle foule ? La foule des habitudes, des vieilles habitudes, des vieilles pulsions pécheresses de notre vieille nature qui crie, qui vocifère. Et donc cette foule-là ne doit pas faire plier notre volonté. Et nous ne pouvons pas obéir à la pression de cette foule et que cette foule de notre tout ce que voudrait notre vieille nature voudrait nous incliner à faire. Nous ne devons pas obéir à cela. En clair, nous ne pouvons pas vivre, je parle pour les chrétiens, mais aussi pour les non-chrétiens, nous ne pouvons pas vivre délibérément et volontairement dans le péché en nous lavant les mains du sang de Jésus-Christ. Si nous le faisons, alors nous devons nous examiner nous-mêmes, comme dit l'Écriture, pour savoir si nous sommes dans la foi. Et la Bible donne une très sérieuse mise en garde à ceux qui ont tendance à lâcher la bride au Barabbas du péché en nous. C'est dans Hébreux 3, 13, et ce sera la conclusion. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Prions. Seigneur notre Dieu, notre position est difficile, mais nous savons que tu as, en Jésus-Christ, vaincu les puissances des ténèbres et la puissance du péché aussi. Et Seigneur, nous voulons cependant te demander encore une fois de nous accorder la grâce de mettre tout notre plaisir à marcher dans tes voies et à nous abstenir du péché. Et nous demandons aussi ta grâce que chaque fois que nous sommes tentés par un péché, de crier plus fort que le péché et de crier à propos de ce péché qu'il soit crucifié avec Christ, qui est mort et ressuscité pour notre mort pour nos péchés et ressuscité pour notre justification. Amen.
En réponse à cette prédication, nous voulons chanter le chant.